Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour, hello, sayonara, vous êtes sur Cause Commune 93.fm. Et bah oui, il est 14h, c'est Rayon libre et nous sommes en direct. Cette semaine, moustache, prostate et vélo. Mais avant, Rayon libre, écoutez-nous surtout sur la bande FM 93.1 FM. Cause Commune est une radio associative qui existe parce qu'il y a des hommes et des femmes qui donnent de leur temps, de leur savoir, de leurs compétences, de leur énergie pour vous proposer tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, une programmation qu'on essaye d'être intelligente, différente, pertinente et surprenante. Nous sommes en octobre 2024. Je vous rappelle que la grande cause nationale est la promotion de l'activité physique et sportive. Faites du sport, vous irez mieux. Concernant le vélo, en France, on n'a pas attendu les Jeux Olympiques pour que la pratique du vélo puisse être prescrite sur ordonnance, et ce depuis 2016. Quel bilan, quel impact, comment cela entre-t-il dans les cabinets des médecins? Pour l'instant, il semble qu'on n'en sache rien ou pas grand-chose. Sur le site du ministère de la Santé, on apprend juste qu'il y a 492 maisons sport-santé habilitées au 31 mars 2024. 360 000 personnes déjà prises en charge par ces MSS. Faut-il passer par une maison sport-santé pour faire du vélo? Peut-être trouverez-vous plus d'informations intéressantes que moi. En tout cas, la grande cause nationale de la promotion de l'activité physique et sportive, c'est SO 2024. Le projet de loi des finances annonce 268 millions d'euros en moins pour le ministère des Sports. Ouf, le ministre annonce que ça n'impactera pas sa politique. À propos de santé, prendre soin de son vélo, c'est important. À la lumière du jour, c'est bien de le nettoyer, de le sécher, de le graisser, de l'inspecter aussi. Le régler s'il faut, ce n'est pas idiot. Palper les pneus, remettre un peu de pression, l'inspecter visuellement et manuellement. Nous sommes encore au mois d'octobre. Octobre rose. Mesdames, prendre soin de votre corps, c'est encore plus important. Ce mois d'octobre, c'est le mois de la sensibilisation au cancer des seins. Si ce n'est pas fait depuis quelques mois, apportez le même soin à votre poitrine, qu'à votre vélo. Et vous, messieurs, on arrive dans le mois de novembre. Depuis quelques années, ce mois est dédié à la santé masculine. Je parie que vous palpez plus souvent vos pneus que votre prostate. Et pourtant, avoir un vélo rutilant comme neuf, ça ne vous servira pas à grand-chose si vous la négligez, votre prostate. Je ne vais pas demander à mon invité du jour comment se porte sa prostate. Patrick Van Den Bosch est un confrère. Il est le créateur d'un site web, bikecafé.fr. Il porte aussi un podcast, Blabla Café. Il n'est pas là aujourd'hui pour nous parler de cela. Il s'élance dans quelques jours sur une descente de la France à vélo, les Bacchantes, pour sensibiliser sur ces maladies masculines, pour montrer aussi que le vélo pourrait être considéré comme un médicament. Fait-il du vélo sur ordonnance? Passe-t-il par une maison sport et santé pour pédaler? Les Bacchantes, c'est quoi? Comment les soutenir? Voici les points que nous allons aborder aujourd'hui avec Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour Jérôme.
Merci d'être avec nous aujourd'hui au micro depuis Aix-en-Provence.
Oui, merci, je suis loin, il y a un peu de soleil qui est revenu aujourd'hui.
Patrick, vous faites du sport sur ordonnance, vous?
Eh ben oui, je fais du sport sur ordonnance, c'est prescrit depuis très longtemps, puisque maintenant j'arrive à 76 ans, et donc je suis plus dans les préoccupations de mon âge, et donc le cancer de la prostate, comme tu l'as évoqué dans l'introduction.
Et alors c'est une question que je ne pose justement jamais à mes invités, mais je vais faire une exception. Comment allez-vous? Comment vas-tu?
Bah écoute, moi je vais très bien. Je vais très bien, d'autant que je suis dans ce projet un peu délirant qui consiste à mettre 5 cyclistes sur la route qui font partir de Paris le 10 novembre, donc très bien, très prochainement, donc avenue Foch, et pour se rendre à Aix-en-Provence le 16 pour relier en fait deux courses à pied, puisque les Bacchantes, c'est une association qui organise des événements sportifs. Depuis 2012, tout a commencé à Paris en 2012 sur avenue Foch.
Ouais.
Et aujourd'hui encore, donc le 10, là, il y aura à nouveau une nouvelle course à pied donc, qui aura lieu à avenue Foch. Et donc mon idée a été de relier ces deux événements sportifs, puisque à Aix-en-Provence, on a réussi à installer aussi ces épreuves de course à pied qui sont très populaires, à plus de 2000 personnes l'année dernière au départ de la course. Et donc, de façon symbolique, j'ai voulu effectivement ouvrir un peu au monde du vélo ces problématiques de santé liées aux maladies masculines.
Ouais. La question que je te pose, tu me dis que tu vas bien. Est-ce que tu vas bien parce que tu pédales?
Bah écoute, moi je vais bien parce que je pédale, après il semblerait. Hein. Donc la faculté me dit que tout va bien, puisque effectivement je me fais suivre aussi, pas qu'au niveau prostatique, mais sur le reste. J'ai 76 ans, tout va bien, je fais du vélo. De longue distance, et tout va bien. Et autour de moi, je vois aussi beaucoup de personnes un petit peu âgées qui font du vélo et tout va bien. Et j'engage évidemment tout le monde. On m'a dit que c'était une bonne thérapeutique. Écoute, ce matin, j'ai passé justement un Doppler veineux.
Oui.
Et finalement, la personne qui me passe le Doppler veineux a dit, écoutez, la solution la meilleure pour votre système veineux, c'est le vélo. Le vélo, c'est recommandé pour la circulation sanguine.
C'est donc, pas que bon pour la prostate.
Pour la prostate, c'est pas vraiment contre-indiqué, puisque récemment, j'ai fait un article sur le sujet qui prouve, qui démontre, en tout cas à l'appui d'un certain nombre d'informations médicales que j'ai puisées sur des rapports, que la prostate n'est pas impactée par la pratique du vélo, surtout. Alors le mal au cul, ça c'est...
C'est encore autre chose, oui.
C'est autre chose, mais la prostate, elle n'est quand même pas directement appuyée sur la selle.
Le mal au cul, c'est épidermique.
C'est épidermique, tout à fait.
J'allais te demander ton médecin ce qu'il en pense. En tout cas, quand tu fais un test Doppler, ton médecin il dit continue à pédaler parce que c'est ce qu'il y a de mieux ou c'est très bien ou c'est recommandé pour la circulation sanguine. Pour revenir au bacchante, tu m'évoques que c'est relié deux événements sportifs qui sont de la course à pied et toi tu vas le faire à vélo. La course à pied, c'était de là d'où tu viens, non?
Effectivement, j'ai fait de la course à pied pendant de longues années. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu les bacchantes en 2012, à Villefranche, puisque à l'époque, j'écrivais des articles pour Jogging International, qui était une revue de course à pied. Moi, j'étais coureur. Je suis un cycliste devenu coureur, et de coureur, je suis redevenu cycliste. Donc, en fait, j'ai toujours navigué dans des sports outdoors, hein, que ce soit de la montagne, du vélo, la course à pied, etc., avec plus ou moins de succès dans certains cas, effectivement. Mais en tout cas, toujours beaucoup de plaisir de prendre l'air, je dirais, d'une façon ou d'une autre.
Et aujourd'hui, tu pratiques encore les deux, la course à pied et le vélo?
La course à pied, un peu moins, parce que malheureusement, il y a un peu plus de 2 ans, je me suis cassé le fémur en vélo, justement, oui. En glissant sur une belle plaque de glace. Et du coup, pendant 2 mois, j'étais un peu out, je me suis rééduqué, mais malgré tout, le plaisir de course à pied a un peu disparu, parce que j'ai une jambe gauche maintenant qui est devenue un petit peu défaillante en matière de poussée, ce qui m'oblige à courir un petit peu de travers, ouais. Donc c'est beaucoup moins désagréable, c'est beaucoup moins agréable qu'avant, et donc le vélo par contre, j'ai une jambe droite qui aide beaucoup la jambe gauche à continuer à pédaler, et ça me paraît plus approprié. Alors je cours un peu, de temps en temps, je marche, enfin, voilà.
Mais c'est intéressant parce que donc une fracture du fémur fait qu'effectivement ça devient compliqué de courir, par contre sur le vélo, cette fracture du fémur aujourd'hui, elle n'est pas limitante du tout.
Oui, alors après, bon, il faudra en parler à Olivier Arlemont, mais ou à d'autres personnes qui sont des personnes plus efficaces que moi sur le vélo pour en parler savamment. Moi, ça m'a un peu handicapé, ça handicape un peu mes performances, mais je continue toujours à faire, notamment cette aventure en vélo qu'on va faire avec mes 4 collègues. C'est quelque chose qui est quand même un peu hors norme, puisqu'on va faire des étapes jusqu'à 130 km par jour en pignon fixe. Donc pour moi, ça sera du single, parce que moi, je me suis toujours pas habitué à rouler en pignon fixe. Mais ça sera quand même du mono vitesse. Et on va s'amuser quand même, quelque part, à monter le col de la République en sortant de Saint-Etienne.
Mais c'est important, c'est intéressant. Donc vous partez à 5, le 10 novembre, au départ de Paris pour relier Aix-en-Provence. Vous êtes 5 hommes, et vous partez. Pourquoi choisir le single speed et le fixie?
En fait, c'est venu... alors il y a plusieurs raisons. Je vais les évoquer dans l'ordre. D'abord au départ, parce que tu sais, Moustachu, 1903, voilà, début Tour de France, voilà, on est un peu dans les forçats de la route, donc c'est un peu l'idée qui m'est venue. Et puis il se trouve que finalement Thierry Saint-Léger, qui est un éminent cycliste bien connu pour ses exploits en pignon fixe, a été opéré au mois de mai d'un adénome de la prostate. Et il s'est joint à notre équipe de façon très volontaire, justement très motivé par rapport au sujet qu'il connaît bien. Et donc Thierry étant un éminent spécialiste du pignon fixe, évidemment c'est devenu presque évident. Et puis troisièmement, il y a tellement d'événements qui sont faits sur le vélo, je dirais sur le vélo plus classique, etc., que pour trouver un angle un petit peu différenciant, je me suis dit on va le faire en fixe, quoi. Ouais, pour moi en single, mais donc moi je suis Canada Dry, les autres sont un peu plus authentiques.
Oui.
Mais voilà, l'effort reste quand même un peu particulier.
Mais pour le coup, alors pour les auditeurs, auditrices qui savent pas vraiment ce que c'est que le fixie, c'est un vélo qui est, dès que la roue tourne, le pédalier est en prise. Un single speed, c'est un vélo qui n'a qu'une seule vitesse et sur lequel on peut avoir une roue libre. Tu te rends pas l'exercice un peu plus difficile, toi, en étant single plutôt qu'en fixie? Parce que le fixie, il y a une sorte d'inertie qui se crée que tu n'auras pas.
Oui, d'accord, mais pendant que, effectivement, ceux qui sont en fixe vont trouver quelques avantages dans les montées, puisque c'est une roue qui entraîne et qui redonne de l'énergie aux pédaliers, donc ça les aide un peu. Ouais. Par contre, moi, dans les descentes, bah, je vais me friser les moustaches, c'est le cas de le dire, en me laissant filer tout doucement et en atteignant des vitesses de 50-60 km/h, alors que les autres, ils sont obligés de pédaler comme des fous pour maintenir une certaine vitesse. Voilà, donc en fait, voilà.
Donc ils t'attendront, ou alors ils t'attendront pas en haut, mais tu les rejoindras en bas.
Ouais, écoute, de toute façon, on fera ça, c'est pas une course, c'est évidemment l'occasion, alors surtout, je le répète, pour les auditeurs, c'est qu'on fait ça surtout pour rencontrer des cyclistes le long de la route. Donc on va faire ça à une vitesse tout à fait raisonnable, même si les étapes sont ambitieuses, on a toute la journée pour le faire. Les arrivées dans les étapes se feront vers 17h, donc on partira le matin suffisamment tôt pour arriver à 17h. Et prendre le temps surtout de s'arrêter, de discuter avec les gens, parce que on est avant tout porteur d'un message. Et on fait pas ça pour rouler entre potes, on fait ça simplement parce que on est alerté sur une problématique de santé. Enfin, on peut donner quelques chiffres là.
Bien sûr.
Jérôme.
Bien sûr.
Parce que c'est quand même le cancer de la prostate, pour prendre cet exemple, c'est quand même 8500 décès liés à ce cancer chaque année. C'est le premier cancer chez l'homme après 50 ans. C'est aussi la troisième cause de mortalité par cancer, toutes causes confondues en France. Oui. C'est plus de 50 000 cas de cancer de prostate. Donc voilà. Et comme tu le sais, les hommes sont un peu taiseux sur le sujet. Mmh. Et évidemment, avant de me consulter, il se passe un certain temps, ils hésitent, ils n'osent pas aller voir un neurologue. C'est souvent d'ailleurs les femmes qui les tirent par la manche pour les emmener à la première consultation. C'est assez ce que les urologues m'ont dit. Donc voilà, il fallait faire quelque chose. Il se trouve que finalement, comme les hommes n'en parlent pas, la société n'en parle pas non plus. Mmh. Et que du coup, les médias se taisent, puisque les médias parlent que des choses qui émanent de la société, qui ressortent de façon forte. Donc là, on va essayer de prendre le sujet à l'envers, c'est-à-dire que nous, médias, on va essayer de remonter le fil de la chose et puis de repasser par la case société, surtout les hommes, qui sont, on souhaite qu'ils parlent, qu'ils nous parlent, qu'ils nous racontent leurs histoires.
Et ce que j'ai compris aussi, sur chaque étape, le soir, il y a des rencontres avec des médecins, des urologues, des moments d'échange pour prendre encore plus connaissance du sujet et pour être capable d'en parler encore mieux, c'est ça?
Voilà, tous les soirs, il y a un point presse qui est fixé dans différents lieux, que je vais évoquer dans un article prochain qui va sortir sur Bac Café, mais que les gens pourront retrouver sur le site, pour essayer de faire parler. Alors les urologues, je ne garantis pas, parce qu'on essaye de prendre des contacts, mais tu sais, les urologues, c'est une profession très chargée aussi, avec des emplois du temps un peu difficiles. Donc effectivement, le 11 novembre, on sera à Jargeau avec Zéphane, on va faire une boucle avec eux de 80 km sur place. C'est difficile de déplacer un urologue le 11 novembre. Je pense qu'il y a beaucoup de ces personnes qui sont très occupées, soit au niveau de leur famille pour avoir un moment de repos, On essaie d'avoir un maximum de gens pour en parler, d'avoir des médias, de la presse quotidienne régionale et autres, sur les différents points presse qui seront animés tous les jours à 17h dans un lieu précis dans chaque ville. Peut-être Saint-Étienne, ça sera au musée du cycle. À Valence, c'est sûr qu'on sera à la mairie. La mairie m'a répondu favorablement, on va nous accueillir. Enfin, on essaye à chaque fois de trouver des lieux d'accueil où les gens pourront venir nous retrouver pour répète, pour parler et échanger sur cette problématique de santé.
Ouais, et raconter chacun son expérience aussi et écouter les différentes solutions qui existent. On va se faire la pause agenda et la pause musicale, Patrick, et en deuxième partie de l'émission, moi il y a quelque chose aussi quand même qui m'intéresse, et c'est aussi vis-à-vis des auditeurs, c'est d'aborder le sujet de comment est-ce que les auditeurs, cyclistes ou non d'ailleurs, peuvent vous accompagner, donc être avec vous sur vos épreuves, sur vos étapes, et puis vous accompagner aussi peut-être financièrement. Et puis aussi quand même, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir un peu comment vous organisez. Est-ce que c'est compliqué d'organiser ce genre d'événement? On en reparle en deuxième partie de l'émission. Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes bien sur Cause Commune 93.fm, vous êtes à l'écoute de Rayon Libre. Nous sommes le lundi 28 octobre, il est 14h14, nous sommes avec Patrick Van Den Bosch, un jeune homme qui pédale. Et avant de le retrouver, on va se faire une petite pause agenda. Quoi faire, que voir, que lire et où aller avec son vélo cette semaine? D'abord un peu de lecture, ce livre, Bike Punk, les chroniques du Flash, édité chez Plume. Ça se lit comme les kilomètres à vélo s'avalent sur un faux plat descendant. Un autre livre, un thriller dans le monde du vélo cargo, écrit par Franck Girardeau, Vélo Cargo, tout simplement. Il est édité chez Nateo Éditions. Il se lit comme la descente de la Via Rhôna avec le vent du Nord dans le dos. Et puis à noter dans votre agenda, à Paris, le mardi 5 novembre, tout à fait, au Steel Coffee Shop, la présentation du livre blanc de la French Cycling Tech. C'est vers 19h, le vélo en mode start-up. Et dans votre agenda, toujours, soirée cause commune, premier vendredi du mois, soirée fausse commune, puisque ce sera le 1er novembre, pas de paf, mais si vous venez avec un truc à manger et à boire, c'est bien aussi. C'est au 22 rue Bernard Dimet, Paris 18e, à Paris, à partir de 19h. Le moment de la musique est Can't Leave It Alone, Aaron Fraser. On se retrouve dans 3 minutes, à tout de suite. Voilà, ça marche.
Cause commune, la voix des communs.
Et non, on peut pas, Liv Patrick Elone. Vous êtes toujours sur Cause commune 93.fm, deuxième partie de Rayon Libre avec Patrick Vandenbosch pour une bacchante pas bancale. Patrick, vous êtes toujours avec nous ?
Ah, toujours.
Toujours. Est-ce que vous évoquez, je sais que tu roules pas mal en peloton, est-ce que tu évoques ce sujet du cancer de la prostate ou en tout cas des problématiques de cancer masculin dans les pelotons? Est-ce que c'est un sujet qui est abordé?
Ben non, justement, c'est pour ça qu'on va rouler pour l'aborder, parce que c'est un non-sujet. Tu sais que les hommes là-dessus sont soit ils en parlent, je dirais, de leur sphère un peu sexuelle. Sous une forme un peu de gaudriole française, mais que les problèmes réels de santé sont peu abordés. Pour moi, justement, ça a été une des motivations pour laquelle on s'apprête justement à rouler à plusieurs pour aller à la rencontre de ces hommes qui malheureusement sont trop silencieux.
Ouais. Et avec ce projet Bacchante, quel objectif vous portez? De la sensibilisation, de la levée de fonds, autre chose?
Voilà, alors il y a deux objectifs, évidemment la sensibilisation, on en a parlé largement, mais aussi la collecte de fonds, parce que concrètement, évidemment, il a fallu choisir un thème, enfin quelque chose de concret qu'on va réaliser suite à cette épopée cycliste.
Ouais. Qui part le 10 novembre à Paris, et on peut rouler avec vous. Hein.
C'est ça. Le 10 novembre à Paris, donc, il y aura cette fameuse course à pied. Nous, on assurera le prologue en vélo devant cette course à pied. Et puis après, on va suivre un certain nombre d'étapes sur un itinéraire tracé sur lequel les gens pourront venir nous rencontrer. Donc, il y aura un live track qui sera publié sur le site desbacantes.org, qui est le site qui est en fait référent de toutes ces organisations bacantes, que ce soit course à pied puis maintenant vélo. Mmh. Donc sur la partie vélo, il y aura effectivement un lien qui permettra à tout un chacun de nous situer sur une carte de France, un petit point qui se déplace, et c'est là qu'on sera. Ouais. Et évidemment, on invite tous les cyclistes qui le peuvent, qui le voudront, de nous rejoindre sur le parcours. C'est promis, on ne roulera pas comme des fous, compte tenu de nos vélos. Donc, ils pourront nous accompagner un petit peu, jusqu'au bout s'ils veulent, éventuellement à l'arrivée pour boire un pot. Voilà, donc on sera là.
Et je t'ai coupé la parole, parce que tu disais qu'il y avait un objectif de sensibilisation, un objectif de levée de fonds, et tu disais il y aura aussi une restitution à la fin, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Levée de fonds, concrètement, on a décidé de financer une recherche, en fait, qui a été lancée déjà depuis un certain temps, ici à Aix-en-Provence, qui est dirigée par un médecin urologue qui a lancé cette recherche, qui consiste à s'occuper des hommes post-opératoires. Parce qu'en fait, les hommes qui sont opérés d'un cancer, c'est une opération qui peut évidemment déclencher des effets désagréables. Mmh.
Comme quoi, vous savez, tu sais, tu connais les effets secondaires très désagréables d'une opération d'un cancer de la prostate ?
Oui, oui, les effets très souvent. Alors, il y en a un qui est énorme pour les hommes, c'est la perte d'érection. Oui. Puisque, donc, le risque de cette opération, c'est d'aller toucher le nerf érectile et de supprimer un petit peu les jouets humains. Donc, oui. Donc ça, c'est énorme.
Mais sur le vélo, c'est pas trop pénible, ça ?
Pour le vélo, on peut s'en remettre, mais faire du vélo, d'accord. Mais après, il y a d'autres choses qu'on pourra plus faire. Oui. Et puis, récemment, donc, j'étais à une conférence qui fait venir un certain nombre de témoins, et dont quelqu'un qui m'a énormément ému, une cinquantaine d'années, qui dit on est sur le trottoir après l'opération, on sort de l'hôpital, et puis on découvre que dans les supermarchés, il y a des couches pour hommes, pour adultes. Ouais. Et donc, c'est très dur. Et donc, cette étude-là consiste en fait à la mise en place d'un programme, santé, comme tu l'évoquais dans ton introduction. En fait, aujourd'hui, le sport participe à la remise en forme, mais là, l'idée, c'est de remettre en selle des gens dans leur vie de tous les jours par un programme qui assurera un soutien à la fois sur le sport, pour les remettre un peu à faire une activité sportive, sur la diététique et sur la psychologie. Donc, en fait, il faut financer un certain nombre d'opérateurs qui vont soutenir 100 personnes qui ont été opérées d'un cancer de la prostate pour les remettre, j'irais, un peu en phase avec la vie.
Mais c'est les remettre pas forcément en selle, c'est les accompagner dans un développement ou dans une récupération par le sport, mais pas nécessairement à vélo.
Oui, ils font pas forcément tous du vélo. J'ai pris cette image en selle, parce que c'est quelque chose qu'on utilise souvent dans le langage courant pour faire repartir les gens, mais effectivement, ce sont des gens qui sont pas forcément des cyclistes, hein. Il n'y a pas de ségrégation à ce niveau-là. C'est surtout des gens qui ont été opérés du cancer de la prostate, qui est effectivement a des incidences finalement psychologiques et physiques.
Ouais. C'est le premier bacante à vélo qui se crée, je crois.
Oui, c'est le premier. Bah, tu sais, tu connais bien l'histoire. J'avais essayé de lancer ça en 2020, et puis il y a eu une histoire qui s'appelle le Covid, donc qui est venu un peu entraver le truc. Mais si tu veux, l'idée, elle me trotte dans la tête depuis un moment, parce que, comme tu le rappelais tout à l'heure, effectivement, ces témoignages que j'entendais ou pas, justement, dans le peloton sportif, vous avez pensé, compte tenu des enjeux, ce qu'on avait déjà réalisé en course à pied, que c'était dommage de ne pas s'adresser aussi à cette discipline voisine, frère, cousine, qu'est le vélo. Donc, voilà. Et surtout que dans cette pratique du vélo, il y a quand même des gens qui sont dans la cible.
Oui.
Les plus de 50, je conseille à nos auditeurs de faire attention à ce petit problème-là. C'est très facile, hein, un test PSA va arriver finalement à lever le doute peut-être sur une possibilité d'évolution maligne de la prostate.
Donc, le test PSA, c'est quoi ? C'est le test où...
Le test sanguin, qui détermine des critères qui sont analysés et qui, par leur évolution d'être brutale à la hausse, peuvent être un indicateur qu'il faut faire quelque chose. Après, dans un deuxième temps, il faut aller voir un urologue.
Donc, mais c'est important de le dire, et de dire les mots. C'est-à-dire qu'un test PSA pour vérifier si sa prostate va bien, c'est pas le toucher rectal.
Non, c'est pas un toucher rectal, c'est une couche de sang, c'est une analyse de sang, en fait. Mmh. Donc, quand on voit son médecin généraliste, c'est qu'on sait préférer un tas d'analyses, en fait, qui aborde un certain nombre de critères. Je pense que le médecin, s'il ne le propose pas spontanément, ce qui serait quand même un petit peu rare et peut-être une faute professionnelle, il faut lui demander, indiquez-moi bien un test PSA, et puis le suivi de ce test PSA permet de voir dans la durée, en fait, l'évolution potentielle de cette unité de mesure pour éventuellement, et là votre médecin généraliste pourra le dire, attention, allez voir un neurologue, je conseille d'aller voir un neurologue, et là effectivement, on procède, le neurologue procédera à un tas de vérifications, une échographie, peut-être un toucher rectal pour aller voir si la souplesse de la prostate, alors je ne sais pas si je rentre dans les détails là, hein, carrément.
Oui, oui, mais faut, soyons là aussi pour dire les choses, sans fausse pudeur et sans être graveleux non plus, c'est important.
Il faut dire aux hommes que, enfin, arrêtez, quoi, le toucher rectal, c'est pas un viol, c'est un examen médical comme un autre. Il y a rien d'abominable là-dedans. Il mesurera aussi un débit urinaire, parce qu'en fait, la prostate, en vieillissant, la prostate grossit. Et donc, la prostate vient resserrer l'urètre. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'est pour ça que les hommes d'un certain âge se lèvent plusieurs fois par nuit pour pisser, quoi.
Parce qu'ils n'arrivent pas à vider leur vessie. Il va falloir qu'on écoute Abel Guggenheim, et juste après, vous nous rappellerez, parce que ce sera le temps de conclure l'émission, vous nous rappellerez comment on vous suit, votre site internet, et quelles sont les dates, et puis surtout comment on vous donne aussi de l'argent. En attendant, on va quand même s'écouter Abel Guggenheim pour sa chronique hebdomadaire. Est-ce qu'il reprend son fil laissé non déroulé il y a 15 jours? Non, il ne reprend pas. Il fait des images et il propose une... Je vous laisse l'écouter.
Bonjour. Je reviens aujourd'hui sur la mort de Paul Varry, écrasé le 15 octobre dernier par un chauffard, boulevard Malesherbes à Paris. Je vous faisais observer lundi dernier que, à l'occasion de cet événement, dont les acteurs sont un cycliste roulant à sa place et n'ayant commis aucune infraction, incivilité ni même imprudence, et un automobiliste ayant roulé à vive allure dans une piste cyclable, bousculé le cycliste puis ayant roulé sur son corps, les sujets les plus abordés dans les nombreux articles, émissions, postes, débats qui ont suivi ont été les incivilités et infractions au code de la route commises par les cyclistes et la possibilité de leur faire passer un permis, porter un casque, etc. Discutant avec mes amis ayant participé à ces débats, j'ai eu envie de leur dire « Mais lorsque ces sujets ont été introduits, tu aurais pu répondre « C'est effectivement un vrai sujet que je suis tout à fait d'accord pour aborder un autre jour, quand vous le souhaiterez, mais aujourd'hui nous parlons de la mort d'un cycliste tué par un automobiliste ayant commis une infraction grave, puis bien plus qu'une incivilité. » Je ne leur ai évidemment pas dit cela, car je sais que ça aurait été impossible. On les aurait aussitôt accusés de fuir les débats difficiles, de ne voir que les défauts des automobilistes et de considérer les cyclistes comme irréprochables. Je tente une comparaison. Vous avez sans doute remarqué, dans les parcs et jardins, que même lorsque de nombreuses poubelles sont disposées un peu partout, certaines personnes semblent mettre leur point d'honneur à ne pas ramasser les déchets de leur pique-nique et de tout laisser en vrac. Lorsque certaines pelouses sont indiquées comme interdites car étant au repos, d'autres personnes, ou les mêmes, ne semblent pas disposées à faire l'effort de s'installer sur les pelouses restantes, même si la surface disponible y est suffisante. Si demain un terroriste rentre dans un parc et abat une ou des familles en train d'y pique-niquer, est-ce que quelqu'un osera faire observer que les personnes qui pique-niquent ne respectent pas toujours les règles qu'ils et elles devraient observer ? Une autre comparaison. Les personnes qui se promènent à la campagne ou dans les bois n'ont pas non plus toujours une conduite irréprochable. Ils et elles cueillent inconsidérément des plantes, sortent parfois des zones qui leur sont réservées, contreviennent aux obligations et ou aux conseils sur le fait de fumer, d'allumer un barbecue, etc. Si demain un chasseur sort d'une des zones où il a le droit de chasser, arrive sur un sentier réservé à la promenade et tue un promeneur, qui ira lors des débats qui suivront rappeler tous les méfaits des promeneurs et promeneuses? Pour les cyclistes, c'est différent. Quoi qu'il leur arrive, ils et elles en sont forcément présumés au moins en partie responsables et sans doute coupables. C'est une forme de discrimination analogue aux autres. Elles sont listées par l'article R225-1 du Code pénal, constituent une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique. Il y a ensuite encore plusieurs autres catégories. Peut-être faudrait-il y ajouter de leurs moyens de transport. À lundi prochain.
Merci, merci beaucoup Abel. Je suis toujours avec Patrick Van Den Bosch. En 30 secondes, Patrick, où est-ce qu'on vous trouve et où est-ce qu'on, comment on fait pour vous suivre et pour vous donner de l'argent?
Alors, en 30 secondes, tout est finalement sur le site lesbacantes.org. Je vous invite à y aller. Donc il y a les courses 2024 dans lesquelles il y a la partie course à pied. Oui. Cette partie course, il y a aussi je fais un don. Donc le don, de toute façon, il est à la même adresse, c'est sur un Hello Asso, donc c'est un don qui est défiscalisable.
Et c'est sur lesbacantes.org, et je suis obligé de vous couper. Patrick, chers auditeurs, chères auditrices, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous retrouve la semaine prochaine.
Rayon Libre.